Ce que vous allez entendre est une rediffusion.
Votre attention, s'il vous plaît. Premier appel, embarquement du train numéro 1 de Via le Canadien à destination de Kamloops et Vancouver.
Si loin, si proche, à la conquête de l'Ouest canadien. Céline Develay-Mazurel, Laure Allary et Sarah Lefebvre. Parlez-vous française quoi ? Bonjour à tous. Sur la ligne du Transcanadien qui traverse d'est en ouest le Canada, on trouve pile au centre du pays et de cette ligne mythique une province aussi immense que méconnue, la Saskatchewan. Jadis sauvage et pleine de bisons, cette terre de prairie, aujourd'hui cultivée, s'étale sur plus de 650 000 km². Un infini et plat pays, pas si monotone que ça quand on se penche sur l'histoire et la réalité de son peuplement, comme l'ont fait à Saskatoon Sarah Lefebvre et Laure Allary en 2017 pour nous. Cette année-là, le Canada fêtait les 150 ans de sa confédération. La Saskatchewan l'a rejointe d'ailleurs en 1905. Une fête avec pour mot d'ordre l'unité dans la diversité, célébrant ainsi toutes les communautés qui la composent. Et justement, dans ce vaste territoire de la Saskatchewan au bord de la rivière ou dans le pli des collines, vit encore éparpillée une communauté attachante, une minorité francophone, l'une des plus petites du Canada, ni français, ni québécois, des Françaisquois.
C'est qui les Françaisquois? Ben, les Françaisquois, c'est des gens qui se considèrent Françaisquois, qui sont francophones en Saskatchewan.
Qui sont les Françaisquois? C'est une grande question. C'est un peu un mélange de tout. C'est descendants de voyageurs, c'est les Métis, c'est les pionniers, c'est les commerçants de fourrure. C'était des Français, c'était des Belges. Ils venaient du Québec aussi.
Peut-être de plus en plus, les Québécois commencent à se rendre compte qu'il y a des francophones à l'extérieur du Québec. Alors, certains connaissent les Françaisquois, mais j'avoue que je le fais découvrir à beaucoup de gens.
Qui est Françaisquois? Eh bien, on est Françaisquois quand on célèbre la francophonie en Saskatchewan. En fait, c'est ça, être Françaisquois.
Ça vient de ne pas vouloir s'appeler des Franco-Saskatchewanais. C'est francophone, Saskatchewan, croit comme les Québécois.
Il suffit de parler français, de vouloir parler français, de vouloir s'impliquer dans cette communauté.
Ah, bonjour! Bienvenue à la fête de Françaisquois. Je suis très contente d'être ici. Ça me fait très plaisir de vous souhaiter la bienvenue à cette grande fête où le soleil est avec nous, la chaleur au maximum. Alors, je pense qu'on va passer vraiment une belle fin de semaine, tout le monde ensemble. Alors, gênez-vous pas à vous joindre à la fête avec nous.
Cet été, sous un soleil de plomb non loin de la ville de Saskatoon, la fête était donc françaisquoise. Une fête bonne enfant et militante, entre déjeuner crêpes ou sirop d'érable, concerts ou ateliers gigues. Un événement communautaire qui perdure depuis 1980 dans une province à très grande majorité anglophone et où, dans les vastes plaines, des villages comme Bellevue, Cantal ou Montmartre résistent encore. Ce week-end-là, une petite centaine de personnes s'est donc donné rendez-vous dans l'immense parc provincial de Pike Lake pour célébrer la culture francophone. Une grappe d'enfants joue dans l'herbe, les piliers de la communauté discutent assemblée communautaire et école d'immersion, pendant que les plus âgés, eux, ont déplié la chaise de camping face à la scène. C'est là que défilent les musiciens francophones du pays, parmi eux des locaux, bien sûr, comme Amy.
Tu rentres sur le terrain de la fête françaisquoise, tu connais tout le monde, puis c'est vraiment comme, c'est ça, c'est comme une réunion de famille, presque. Puis j'aime ça, ce feeling-là, ce sens d'appartenance-là.
Émilie Lebel, alias Amy, sur scène.
Oui.
On est avec vous, là, dans le parc. On se balade un peu en dehors du bruit de la scène, de la fête qui a commencé. Vous êtes une jeune artiste françaisquoise.
Oui.
Et c'est important de le dire pour vous.
Oui, je suis fière de pouvoir être françaisquoise, d'être un artiste, puis avoir un impact sur la communauté. Je veux faire savoir aux gens que oui, il y a une histoire ici, riche, francophone, françaisquoise. Des fois, j'aime pas ça dire que mes parents viennent du Québec. J'essaie toujours de corriger les gens comme « Ah, OK, c'est là que t'as appris ton français. » Mais oui, mais si c'était pas grâce à la communauté françaisquoise, je l'aurais perdu mon français. Parce que c'est très facile de se faire assimiler dans l'Ouest.
Et est-ce qu'il y a des mots purement françaisquois?
Oui. La combine,
Une combine, c'est la moissonneuse-batteuse. On dit ça parce qu'en anglais, c'est combine. Parce que les Francescois, tu sais, ça s'est établi ici, c'était des fermiers. Tu sais, fait que c'est... Les mots ont resté.
Est-ce qu'il y a une de tes compositions qui représenterait un peu la culture francescoise?
Je fais un cover ce soir d'une chanson très, très, très populaire de Carmen Campagne qui vient de Saskatchewan. Puis elle a eu un immense succès au Canada en tant que francophone, surtout au Québec. C'est une artiste pour les enfants. Je vais à l'étable pour tirer ma vache. Pas capable de tirer ma vache. Je prends un seau d'eau, puis j'y jette en pleine face. Les deux yeux bouchés bien durs. Un bon chocolat chaud. Un bon chocolat chaud. Un bon chocolat chaud. Puis je répète ça.
Un bon chocolat chaud. Un bon chocolat chaud. Un bon chocolat chaud. Une dernière fois. Je vais aller faire pour tirer ma vache. Pas capable de tirer ma vache. Je
prends. C'est la première fois que je viens dans le coin.
À Pike Lake?
Oui, oui, j'étais surpris. J'en avais entendu parler, mais je n'étais jamais venu. C'était une belle région.
C'est un parc immense?
Oui, il paraît que c'est un des plus grands parcs provinciaux. Évidemment, nous, on a nos petits coins juste à nous autres, au Francescois, mais il paraît qu'il y a des centaines de places de camping. Là. Ça fait que tant mieux, c'est beau.
Vous êtes venu d'où, vous, Michel?
Nous, on est de Prince Albert, 2 heures au nord d'ici. Là.
Donc, c'est un peu de route?
Ouais, mais tu sais, on est habitué en Saskatchewan, les routes, là, c'est pas, ça nous fait pas trop peur, là, excuse-moi. Là.
Michel Dubé, vous avez un t-shirt gris avec des écritures très colorées dessus. Et en gros, en blanc, c'est écrit « Je suis bilingue, passionné, fier, résistant, francophone, bâtisseur, libre citoyen du monde, engagé, francescois, métissé, résilient, créatif ».
Voilà, ça résume pas mal l'histoire des Francescois et des autres francophones partout au Canada, parce que c'est une lutte de résistance pour ne pas se faire assimiler complètement par les anglophones, parce qu'on est très minoritaire, hein. On est sur une population de 1,1 million de personnes à Saskatchewan, on est 50 000 parlants français. On est moins de 2% de la population. Plus minoritaire que ça, il n'existe plus. Là. c'est ça le défi. Il ne faut pas qu'on tombe en bas du 2 parce qu'on va se faire... Il faut revendiquer. Il faut résister. Il faut être fier. C'est pour ça que les gens se réunissent ici. C'est pour pouvoir partager, se rencontrer, parce qu'on vient des quatre coins de la province. Donc, des fois, on est 300-400 km facilement entre communautés. Fait que la fête francescoise, c'est un peu un moyen de se regrouper puis de s'encourager, de pas lâcher prise.
Et là, vous préparez un panier pique-nique, c'est ça, pour c'est... tous les festivaliers?
Oui, c'est-à-dire, c'est un panier pique-nique terroir. Donc, c'est tous les produits de la Saskatchewan, la plupart fabriqués ou transformés par des francescois.
Qu'est-ce qu'il y aura dans ce panier, Michel Dubé?
Bon, il va y avoir des légumes, des concombres de Prince Albert, en fait. Du pain fait avec une farine biologique cuit par un boulanger, francescois de Saskatoon. Il va y avoir du pâté de foie de bison.
Ça, c'est vous, le pâté de foie de bison? Oui. Vous êtes éleveur de bison?
Oui, oui. C'est ma femme qui a fait le pâté, c'est pas moi. Moi, je m'occupais des animaux. J'ai abattu les derniers bisons hier matin. Mais c'est ça, éleveur de bison.
Et c'est une spécialité des prairies de la Saskatchewan, le bison?
Ben c'est pas unique à la Saskatchewan. Saskatchewan en a beaucoup. Il y avait des bisons partout dans les grandes plaines d'Amérique. Là. Par contre, ici, on produit presque tout. Hein. Je pense que la superficie de terre cultivée en Saskatchewan dépasse toute la superficie de la France.
Venez vivre la belle vie dans l'Ouest canadien.
Laurier Garreau, historien et dramaturge francescois, basé à Regina.
En 1896, on fait d'énormes campagnes partout en Europe pour attirer des colons vers l'ouest. Donc, beaucoup d'Anglais, beaucoup d'Ukrainiens, de Polonais, des gens qui venaient de la Norvège, de la Finlande, qui viennent prendre ces terres gratuites. Pour attirer des colons francophones ici, l'Église catholique a eu recours à des missionnaires colonisateurs. Et il y a eu beaucoup de Français, de Belges, de Suisses français qui sont venus s'établir ici aussi. Au départ, les gens venaient pour l'agriculture. Donc, ils s'établissaient en milieu rural, mais avec la perte des emplois agricoles, avec la mécanisation agricole qui est survenue après la Deuxième Guerre mondiale, eh bien, tôt ou tard, les gens quittent la ferme et se dirigent vers les grandes villes. Et aujourd'hui, je dirais que 80 % des francophones en Saskatchewan se trouvent dans les grandes villes de Regina, Saskatoon, Moose Jaw, Prince Albert.
On ne parle pas beaucoup français, pour autant, dans les grandes villes, quand on se balade.
Ben oui, mais même là, t'es perdu. T'es perdu dans une majorité. Saskatoon, qui approche du 250 000 personnes aujourd'hui, a peut-être 2 500 à 3 000 francophones. Donc, t'es perdu dans... Parce que t'as pas de quartier francophone dans nos villes ici. Depuis 125, 150 ans, quasiment, on se bat pour survivre ici en Saskatchewan comme groupe linguistique. Parce que c'est un combat de survivance.
Roger Lepage, vous êtes avocat ici, en Saskatchewan, et vous vous êtes spécialisé sur de nombreuses affaires qui concernent les francophones ici en Saskatchewan.
Oui, je suis avocat au barreau de la Saskatchewan. J'ai fait plusieurs causes scolaires parce que la pierre angulaire là, de l'existence des francophones hors Québec, c'est les écoles. Si on n'a pas les écoles, on est mort. À partir de 1890, ils interdisaient l'enseignement du français dans les écoles dans l'Ouest canadien. Et puis d'ailleurs, ils l'ont fait même en Ontario et dans les provinces maritimes. Il y a eu ce rouleau compresseur anglophone où ils voulaient éteindre la langue francophone et la religion catholique. Et puis c'est seulement en 1967 qu'on a commencé à avoir des modifications aux lois pour permettre des écoles bilingues. Ça fait qu'il y a eu au moins 100 ans où c'était illégal d'enseigner le français. Donc, 100 ans plus tard, il y avait beaucoup de monde qui avait tous des noms francophones, mais ils ne parlaient plus le français du tout. Moi, là, quand j'étudiais le français, on le faisait à la fin de la journée. On était permis à peu près une demi-heure par jour à la fin de la journée. Et puis nos examens, on les écrivait le samedi parce que ce n'était pas un cours accrédité. Et puis c'était tout du bénévolat. C'était toute l'Assemblée communautaire francescoise qui organisait ça comme un ministère de l'éducation parallèle parce que c'était pas reconnu par le gouvernement.
OK. Alors, ça me fait toujours plaisir d'être à la fête. Yeah. Party de famille. Ne t'inquiète pas, reste ici. Certes, sois sans souci, j'ai jamais ta Marie Casey. J'ai un cric, un Jaxi pour changer la roue, une Jerry Can, juste au cas où. J'ai un cric, un Jaxi pour changer la roue, une Jerry Can, juste au cas où. Serre ta perle, sois sans souci. J'serai jamais ta Marie Casey.
Bonne main d'applaudissement pour Annie Granger qui nous a fait une belle performance ce soir. Dans le cadre de la fête francescoise. Est-ce que vous allez bien, la gang?
Je viens de la Saskatchewan, j'ai grandi ici, mais j'habite à Montréal depuis quand même plusieurs années maintenant. Mais ce qui est drôle, c'est que je suis toujours identifiée comme... Et de la Saskatchewan, Annick Granger, c'est comme... C'est vraiment une étiquette que j'ai, mais on l'entend dans mon accent, on l'entend dans mes chansons, puis dans la vibe de la musique aussi. Mais c'est quelque chose qui m'est collé. Puis moi, ça me fait plaisir aussi d'être dans l'est du pays. Puis, tu sais, être celle qui va nous rendre un peu visible, peut-être. C'est drôle, il y avait des années à Montréal où j'aurais voulu... juste être reconnue pour la musique que je fais et non pas pour une artiste françaisquoise. C'est... Mais maintenant, j'ai fait la paix avec ça, puis je le prends avec plaisir. Je ne sais pas pourquoi j'ai arrêté de marcher soudain, mais je réfléchis. On a une communauté qui soutient beaucoup ces jeunes artistes. Alors, je pense qu'on grandit avec ça. On grandit avec cette fierté parce que je me souviens quand j'étais vraiment petite. Des fois, il y a des choses qu'on ne comprend pas comme enfant, comme pourquoi est-ce que je ne peux pas aller à la grande école de mon quartier avec tous mes petits amis, là? Pourquoi est-ce qu'il faut que je fasse une heure d'autobus pour aller à l'école françaisquoise où il y a juste 3 personnes dans ma classe? T'sais, comme enfant, des fois, c'est frustrant, ces choses-là. Puis c'est comme, pourquoi est-ce qu'il faut que je fasse toutes ces choses-ci? Pourquoi est-ce qu'il faut que mon père aille à des réunions tout le temps? Pourquoi est-ce qu'il faut qu'on aille sur la colline parlementaire avec notre petite pancarte qui dit « Yé, yé, la gestion scolaire », tu sais. Des fois, c'est des choses qu'on comprend pas. Quand on est enfant, on résiste un peu ce qui nous rend différents, tu sais. On veut juste faire comme tout le monde. On veut être comme tout le monde.
Anglophone?
Ouais, c'est ça. Maintenant, je le comprends. C'est même une petite fierté d'avoir ce quelque chose qui nous distingue.
Et vous allez faire une pièce de théâtre cet été avec d'autres artistes ouais. Françaisquois comme ouais. Émilie Lebel?
Oui. La troupe du jour, le théâtre francophone de Saskatoon. Je fais la musique pour la pièce, c'est le fun.
Et vous allez jouer dans des cours arrière, Annick Granger. Qu'est-ce que ça veut dire, aller jouer dans des cours arrière?
C'est le théâtre d'été, la façon que ça fonctionne ici, c'est un peu comme des concerts maison. Tu sais, quand tu fais un concert chez quelqu'un, il invite 30 amis, puis c'est vraiment intime. Alors, on fait la même formule en théâtre. On s'installe dans la cour de chez quelqu'un. On fait un théâtre en plein air, dans des tout petits endroits.
Et vous allez voyager avec la troupe du jour, alors?
Oui, on fait plein de villages tout autour de la province. Puis c'est des tout petits villages, tu sais, où il y a peut-être 200 habitants maintenant. Alors, c'est le fun qu'on puisse aller jusque dans ces villages-là. C'est pour ça que la formule des cours arrière ou les concerts maison fonctionne bien pour des petites communautés comme ça.
On est à Saskatoon et on va voir la répétition générale de la troupe du jour. On est dans un quartier pavillonnaire, il y a des arbres partout. Une petite cour derrière cette petite maison. Et la troupe est dans le jardin.
Bonjour.
Allô.
Bonjour.
Bonsoir.
On est jetés des croissants, puis on est ici pour vous divertir un brin.
Une petite secousse.
Ah, un mot du bon moment.
Une messe d'amour de country.
On en a des notes là pour vous autres. Des bonnes notes. Ah ouais.
Tu veux commencer ça de même?
Oui, vas-y.
Je chante à cheval, m'accordant sur ma guitare. Je chante des refrains de l'Ouest canadien. Yeah! Long dans mon parcours, en passant par Gravelbourg, j'aperçois une jolie phrase au sud. Et je m'approche d'elle. Je lui dis, chère demoiselle, donnez-moi, s'il vous plaît, oui, votre main, et nous suivrons ce beau chemin. Elle me dit,
cher cowboy, je voudrais être cowgirl pour suivre un cheval sur les chemins.
Yeah!
Je suis d'une grande ville, je suis de passage dans ma famille et je m'entends chanter vos refrains. J'ai toutes les chansons des plaines, sont celles que mon cœur aime et j'entends de très loin vos mélodies. Chanter pour chasser mes ennuis.
Je chante à cheval, m'accordant sur ma guitare. Je chante des refrains de l'Ouest canadien. Ma ville est Gravelbourg, c'est là que j'ai connu l'amour. Et je chante pour une petite femme aux yeux doux. Elle me suit dans les grandes plaines. Tous les jours on se promène. Et nous chantons tous deux des mélodies, car nous sommes devenus des grands amis. Oh!
Colin et Émilie, on est dans une cour arrière. Ça veut dire quoi aujourd'hui pour vous préserver cette culture francophone ici en Saskatchewan?
Vu qu'on est la seule troupe en Saskatchewan professionnelle de théâtre, c'est important de faire ces tournées-là parce que les gens n'ont pas toujours l'opportunité de venir à Saskatoon voir nos pièces de théâtre. Donc, nous autres, on va
Parce que le territoire est très très grand en fait, on ne se rend pas compte, mais les différentes communautés francophones sont très éparpillées, c'est ça?
Oui, oui, c'est très 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 éparpillé, c'est très grand la Saskatchewan. C'est un petit peu différent qu'en Europe, là. Tu peux changer de pays en 2 heures, mais non, ici c'est pas mal loin.
Et est-ce que vous avez l'impression que la jeunesse, elle a envie de parler français dans la région?
On voit une nouvelle vague de jeunes qui veulent s'impliquer parce que l'Association Jeunesse Françaiscoise puis le Conseil des écoles françaiscoises font beaucoup, beaucoup de travail à développer la culture francophone et le sens d'appartenance. Donc, on voit de plus en plus de jeunes qui veulent s'impliquer, parler français. Tu sais, c'est devenu comme cool de parler français. Moi, quand j'allais à l'école, c'était pas cool de parler français. Donc, on voulait pas le parler, tu sais. Mais c'est pas quelque chose qui vient naturellement parce que c'est tellement plus, tu sais, cool, I guess, d'écouter de la musique anglophone, you know? So.
Et je trouve qu'il faut vraiment qu'on continue à se battre aussi pour avoir les services en français, des théâtres en français, de la télévision en français, la radio. C'est pas quelque chose qui vient facilement en Saskatchewan et même au Canada, même si on est un pays qui est supposé d'être bilingue. Mm-hmm. Il faut vraiment continuer à pousser le gouvernement pour nous offrir des fonds pour avoir ces sortes de services-là. Sinon, ça serait pas une réalité pour nous autres.
Hey, parle-lui ça, là!
J'ai toujours aimé voyager. J'ai parcouru le monde entier. Mais lorsque j'entends un sifflet siffler, je sens que je dois m'embarquer. N'entends-tu pas le train qui siffle? N'entends-tu pas le train qui s'en vient? N'entends-tu pas le train qui m'invite? Alors serre-moi dans la main.
Si loin,
si proche,
en Saskatchewan.
On est toujours en voyage dans les vastes prairies canadiennes entre le Manitoba et l'Alberta, là où une petite communauté, les Françaisquois, fait encore résonner sa langue, française bien sûr, des cours arrière aux cours d'école. Ici, dans la province de la Saskatchewan, le français recule, se défend et survit à l'écart des grands foyers de la francophonie canadienne située tout à l'est du pays, au Québec ou dans les Maritimes. À l'ouest, les francophones doivent donc encore batailler devant les instances politiques ou les tribunaux pour réclamer des services et des écoles en français. Zoé Fortier, jeune artiste françaisquoise passionnée d'histoire et d'anthropologie, fait partie de ces résistants des plaines et des rivières. Et à Saskatoon, elle nous a justement donné rendez-vous au bord de l'eau.
On peut se balader honnêtement à Saskatoon pendant des heures autour de la rivière. Puis tout se passe ici.
Et elle est immense, la rivière Saskatchewan, là. Je ne sais pas combien de mètres de large elle fait, mais...
Oui, elle est large. Et puis, vous savez, Saskatchewan, c'est un mot en cri. Et ça veut dire eau qui coule rapidement. Eau vive, finalement. Et quand on regarde à l'eau de cette rivière-là, on voit qu'elle bouge, qu'elle est mouvementée. Alors, c'est très typique de la langue cri, d'écrire ce qu'on désigne, finalement. Les gens à Saskatoon, ils ont parfois des canots ou des kayaks dans leur garage. Puis s'ils vivent assez proche de la rivière, ils vont sortir leur kayak, vont marcher à la rivière. Puis ils vont aller faire un tour. La ville est complètement animée par la rivière en été. Alors, c'est ça qui... c'est le pouls de la ville, finalement.
Ça, c'est fun.
Ça, c'est des canots. C'est des statues de canots. Parce que le canot, c'est quand même une partie importante de l'histoire de l'Ouest canadien. Les voyageurs qui s'occupaient de la traite de fourrure, ben, ils prenaient des canots. Puis il y a beaucoup de technologies qui étaient liées à, tu sais, les kayaks et les canots qui venaient des peuples autochtones, finalement. Tu sais, c'est eux qui nous ont enseigné comment naviguer, où aller sur les rivières, où aller faire la chasse, où trouver les meilleurs endroits pour faire la pêche. C'était leur terre, donc ils la connaissaient mieux que n'importe qui, finalement. Ça a été un point de départ pour la rencontre des peuples francophones, français, canadiens, français, et les premiers peuples, parce qu'il y avait un enjeu de survivance qui était là, puis un enjeu économique. Moi, je m'intéresse beaucoup à tout ce qui touche à l'évolution des cultures. Parce que quand on ne fait pas partie de la majorité, on s'intéresse aux autres minorités. Alors nous, il y a l'anglais, il y a le contexte minoritaire, il y a aussi l'histoire avec les Métis et le rapport avec les peuples autochtones qui dominent beaucoup notre réalité.
Vous avez une histoire, Zoé, avec les Métis?
Bien, comme tous les Canadiens français qui sont arrivés très tôt dans le processus de colonisation, on va appeler ça, ma famille, elle s'est métissée. C'est-à-dire qu'un de mes ancêtres est venu, puis là, il n'y avait pas assez de femmes parce qu'on faisait venir en premier les hommes. Mais les hommes, ils voulaient avoir des épouses, n'est-ce pas? Pour plusieurs raisons, on va dire, hein? Alors, éventuellement, ces gens-là, ils se mariaient à des belles femmes autochtones. Et moi, je ne peux pas savoir si c'était toujours dans le meilleur intérêt des femmes, mais il y a eu ce métissage-là. Alors, on sait, comme Canadiens français, si on est arrivé assez tôt dans l'histoire, il y a de très, très, très fortes chances qu'on a un ancêtre à un moment donné, dans les 1600 ou 1700, qui était autochtone. Puis une des façons qu'on le sait, parfois, c'est... premièrement, il faut parfois aller aux archives. Mais des fois aussi, quand on voit notre patrimoine, s'il y a des noms qui manquent, des mots inventés qui ont rapport avec la nature, parfois, ça peut vouloir dire quelque chose. Mais le plus grand indice, souvent, c'est que la femme n'a pas de nom de famille. Et là, on sait, OK, si on n'a pas toute sa généalogie à elle, il y a des très fortes chances que c'était une femme autochtone. Mais ce qui est dommage, c'est qu'on ne connaît pas leur histoire aussi. Et c'est peut-être pourquoi il y a beaucoup de Canadiens français, francophones, partout au Canada, qui ne savent même pas qu'ils ont été métissés, parce qu'il y a eu des silences, il y a eu des omissions. On n'a pas voulu parler de cette réalité-là, parce que ça allait avoir un impact sur les avantages socio-économiques de la famille. Comme société au Canada, on essaie de vraiment reconnaître de plus en plus la part des peuples autochtones dans la fondation du Canada. Parce que honnêtement, on parle de deux peuples fondateurs, mais la réalité, c'est qu'il y a un minimum de trois peuples fondateurs qui sont les premiers peuples, les Premières Nations, et les Britanniques et les Français. Mais souvent, on parle de deux peuples fondateurs. On a deux langues officielles. Mais ce genre de discours-là est très marginalisant pour les Autochtones qu'on a handicapés. On a tout fait pour essayer de leur empêcher de faire partie de notre histoire. Et puis, on commence seulement maintenant à vraiment laisser les peuples autochtones prendre leur place dans les récits. Si cette personne qui raconte est toujours un homme blanc, anglophone, britannique, protestant, ça donne une version de l'histoire. L'histoire, ça commence par celui ou celle qui la raconte.
Moi, mon cœur est de contribuer puis d'essayer d'expliquer au monde entier que moi, mon sang vient de la France puis mon sang vient d'ici. C'est mon tour de conter mon histoire. Né à Norman de Shinnecashun, Norman Fleury de Shinnecashun, Amitchif Nia, Amitchif Bikshkwan. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, mon nom, c'est Normand Fleury, je suis Amitchif, puis je parle Amitchif.
Dans la bouche de Norman Fleury, c'est tout l'accent des plaines, mais aussi l'histoire des premiers colons dans l'Ouest canadien qui s'invitent dans la discussion. Et comme il se doit avec un elder, un aîné, Sarah et Laure sont venues avec un cadeau sous le bras pour rencontrer ce doyen de l'Université de Saskatoon. Un homme qui parle pas moins de 7 langues, dont l'anglais, le français, l'ukrainien et le Mi'kmaq de la Rivière Rouge. La langue Mi'kmaq, c'est un mélange de français et de cri, une des nations autochtones les plus importantes du pays. C'est aussi la langue des Métis, qui au 19e siècle ont lutté dans l'Ouest contre le gouvernement canadien pour défendre leurs droits et leurs terres. Avec à leur tête Louis Riel, leader de la cause Métis et grande figure de l'histoire du Canada, en 1870, il fondera la province du Manitoba.
Quand ces Canadiens-là, ils ont venu parmi les Mi'kmaq les aidaient pour s'établir. Les Canadiens, on dirait qu'ils ont été les Canadiens. Ça fait qu'ils s'aidaient un à l'autre, hein? Parce que les Mi'kmaq parlaient toutes sortes de langues. Les Mi'kmaq parlaient le français, ça fait qu'ils se connectaient tout de suite avec le français ou les Canadiens. « Ah, comment ça va? Où tu viens? Hein, je viens de la France. Ben, où est-ce que c'est ça, la France? Ben, sur l'autre bord de la mer, en quoi pas. Puis là, il y avait du monde qui venait de Québec. Ben là, tout de suite, le monde de Québec venait. Tu parles français, hein? Ben oui, je parle français. Ben, où est-ce que tu viens? Ben, je viens de l'entour Lac-Saint-Jean, ou je viens de l'entour de Québec ou de Montréal. Oh, ben, j'ai entendu de tout ça, ça fait longtemps, les vieux, mes chefs parlaient de tout ça. Oh, puis les vieux canadiens. Puis là, ils s'accordaient, parce que là, ils voulaient vivre du terrain. C'était des fermiers, ils essayaient de fermiers. Il fallait qu'ils fartochent du bois, couper du bois, puis ôter les racines. Ça fait qu'ils travaillaient ensemble. Il y avait de la force de caractère pour vivre ensemble de l'ouvrage, de l'emploi. Pour les Métchifs, là, les Métis, les Métis, là, notre histoire des Métchifs, là, c'était plus une histoire orale. Nous autres, nous sommes encore une culture orale. Puis le Canada ne nous connaissent pas encore. Ils nous connaissent juste l'histoire des résistances qu'on avait pour protéger notre terre, pour protéger notre histoire, notre langue. Puis il y avait des chefs de leaders comme Louis Riel, de Gabriel Dumont, des Fleury, des Belles Humeurs.
Une horde ambitieuse en mal de nouvelles terres débarque chez les Métis comme s'il n'existait guère. D'un océan à l'autre, chemin de fer à tout prix, les millionnaires du rail se sont offerts un pays. Riel, chef légitime de la Siniboya, réclame en homme digne le respect de leurs droits. Trahi par Ottawa, traité comme du bétail, les Métis n'ont plus le choix. Il faut livrer bataille, victoire à Rivière-Rouge et près de la Côte-Canard. Tous leurs espoirs s'écroulent. Un batoche plus tard, Riel les fers aux pieds, écroués à Regina. Coupable, disent les jurés, Richardson sonne le glas.
On a l'impression que l'histoire du Canada est assez simple, mais le fait, ça remonte à 1869, 67-69, la première résistance des Métis.
Wilfrid Denis, sociologue francophone de la Saskatchewan.
Le gouvernement fédéral a voulu prendre possession des terres de tout l'Ouest parce que le roi d'Angleterre avait donné un monopole à une compagnie de traite des fourrures, la Hudson Bay, la compagnie de la baie d'Hudson. Alors, toutes les terres qui sont alimentées par des rivières qui se vident dans la baie d'Hudson étaient sous le contrôle de la compagnie de la baie d'Hudson. D'ailleurs, quand on a transféré toutes ces terres-là au gouvernement du Canada, initialement, c'était une entente entre la compagnie de la baie d'Hudson, le gouvernement d'Angleterre et le gouvernement canadien. Et les Métis ont dit, mais nous, on est de la terre, vous n'allez pas nous transférer sans nous demander. Donc, il y a eu une première résistance et là, ils ont négocié des conditions pour créer la province du Manitoba, pour couvrir une certaine région où il y avait des communautés métisses.
Le Manitoba, il est à l'est de la Saskatchewan. C'est votre province voisine?
C'est notre province voisine et c'est entre la Saskatchewan et de fait la baie d'Hudson. Et c'est axé sur la rivière Rouge, qui est un des grands fleuves qui éventuellement monte dans un des grands lacs qui se déverse dans la baie d'Hudson. Alors, il commence à avoir de la colonisation au Manitoba. Alors, beaucoup de Métis se sont déplacés en Saskatchewan. Alors là, ils ont commencé à former des communautés. Mais ils dépendaient de la traite des fourrures et aussi de la chasse du bison. Puis là, les troupeaux de bisons ont disparu, en grande partie parce que l'armée américaine les tuait par centaines de milliers pour forcer les Indiens des États-Unis à aller vivre sur des réserves. Donc, les bisons ont disparu. Donc, les Métis se sont retrouvés dans une très mauvaise situation. Et là, quand le gouvernement a commencé à vouloir ouvrir les terres pour la colonisation, ils ont dit, « Mais nous, on a un mot à dire. » Ça faisait des années que les Métis faisaient des revendications pour avoir des terres, avoir droit au titre de terre, et le gouvernement refusait de répondre. Et finalement, ça aboutit à une confrontation armée en 1985 entre les Métis, qui étaient très mal armés, avec des vieux fusils et tout ça. Puis on a établi un contingent d'une armée canadienne qui s'est venue dans l'Ouest et qui les a conquis militairement. Ils ont arrêté Louis Riel, un des chefs. Ils l'ont accusé de trahison. Ils l'ont descendu à Regina pour un procès qui a été tenu en anglais. Et ses avocats ont essayé de se servir de l'argument de maladie mentale pour sa défense. Puis Louis Riel a refusé ce genre d'argument-là. Il a dit non, je suis pas un fou, je suis pas un aliéné mental. Donc, il a confronté les avocats du gouvernement, mais finalement, c'était, je pense que le jugement était déjà pris d'avance. On l'a trouvé coupable de trahison, puis on l'a pendu. On a aussi pendu une dizaine de chefs autochtones et on a envoyé un autre 6 ou 7 en prison.
Quand j'allais à l'école, on parlait de Louis Riel. Il était un traître. Il s'est battu contre son pays, son peuple. Pas son peuple, son pays.
On disait ça à l'école?
Oui, parce que c'était le gouvernement. Puis c'était fraîche dans les idées encore. Vous avez battu contre nous autres, tu sais. Il y a encore ces idées de civilisation du gouvernement. Mais j'en connais du monde qui sont Premières Nations, des aînés, puis des métis, des métifs, là. Puis nous autres, on dit, on s'est battu pour le Canada, pour protéger nous autres comme un peuple uni au Canada. C'est correct de parler anglais, c'est correct d'aller à l'école anglais, mais ça fait vraiment de dommages de suivre la colonisation puis être du monde colonie. Là, aujourd'hui, il y a 90 % plus des Métis, des Métis, là, qui pensent en anglais aujourd'hui. Puis nous autres, on a été détruits par la colonisation des Anglais. Ils ne voulaient pas nous comprendre, ils voulaient nous détruire, ils voulaient faire assimilation, de s'assimiler. Mais pourquoi?
Quand j'y pense, je suis seulement le fleur de lys qui pousse au pied de l'érable, mais on couche dans le même lit. Même si on pointe l'arabe, lorsqu'un déchire l'autre, on lui serre la main en disant c'est pas de ma faute, c'est pas de la faute. C'est vouloir le contrôle sur la langue du futur. Bref, l'anglais, le français reste bien dans l'angle mort du rétroviseur de l'assimilation. Parmi la nation du peuple francophone, quand on se parle, c'est une culture qui résonne dans les couloirs des châteaux de l'Angleterre. Je veux un bilibre et non un presbytère. Je veux pas qu'on se barre, je veux juste parler français dans tout le Canada, bref, dans mon pays, c'est le tien aussi. Donc enlève ton étiquette de minorité, ispi, nous l'avons bâti aussi. Avec la télé, non, tu m'en rappelas. Avec la radio, non, tu m'en rappelas. Avec les médias, non, tu m'en rappelas. Au nom de nation, plus d'assimilation. Avec la télé, non, tu m'en rappelas. Avec la radio, non, tu m'en rappelas. Avec les médias, non, tu m'en rappelas. Au nom de nation, plus d'assimilation. J'ai mal au cœur lorsque je vois l'ignorance, les anglophones qui rêvent de notre tour en France. Les maritimes jusqu'en Colombie-Britannique, y compris les territoires. On serre les coudes lorsqu'il fait noir. Les Français quoi, les franco-manitobains, Louis Riel, Gabriel Dumont se sont battus pour le bien, pour une cause, pour que les gens comprennent que la fleur de lys peut aussi pousser sur les plaines. Pas les plaines d'Abraham, les plaines remplies d'avoine. La vraie tire, elle pousse partout, jusque dans les montagnes.
Salut vous autres, comment ça va?
Salut.
Ça va bien, Joe, en forme?
Oui.
Content de te voir.
Où, là, toi?
Nous, on est juste là, le drapeau Francescois, là, avec les camions. Il y a Jean-Luc, il y a une gang, là.
On est sur le camping Michel Dubé, là, sur le terrain de camping.
Oui, on est proche, là.
De la fête francescoise à Pike Lake. Et là, on voit votre caravane.
Oui, c'est ça.
Et il y a un drapeau jaune avec une croix verte.
Oui.
C'est quoi ce drapeau?
Ça, c'est le drapeau Francescois. C'est un emblème officiel, d'ailleurs, de la province. En autre mot, c'est un drapeau qui vole dans toutes les villes. Il a été reconnu par la province en 2003 comme emblème provincial. Ça, ce drapeau-là a été conçu dans les années 1970. Ça a pris jusqu'en 2000 pour le faire reconnaître comme drapeau officiel de la province. Le jaune représente surtout les cultures, les céréales, l'agriculture, donc, parce qu'on est fondé là, beaucoup là-dessus. La couleur verte représente les forêts du Nord, parce que la moitié de la province est couverte de forêts. La croix, parce que c'est un genre de croix, représente le rôle du clergé, des différentes congrégations de clergés, sœurs et curés, prêtres, qui ont été vraiment essentiels à notre éducation au début de la province. La plupart de nos parents, nos grands-parents ont été instruits, au moins en partie, par des membres d'un clergé catholique. Et le fleur de lys rouge, bien, le fleur de lys, c'est francophone, c'est France, c'est ce qui est de souche française. La couleur rouge, il y a deux significations. Le rouge pour le courage, la détermination, la persévérance. Et le rouge, c'est aussi la couleur du fleur de lys de Louis Riel. Louis Riel, qui était le leader métis francophone, qui s'est battu à deux reprises contre le gouvernement national pour préserver leurs terres.
Dans l'ouest du Canada, les symboles se bousculent et les Françaisquois portent fièrement le français en étendard. On est toujours dans la Saskatchewan, au centre du pays, à la fête estivale de ces francophones des plaines. Et parmi eux, des militants historiques, comme Michel Dubé, ancien président de l'Assemblée communautaire françaisquoise, avec son drapeau, mais aussi des jeunes générations engagées, comme Sean Jobin, un artiste hip-hop local qu'on vient d'entendre. On retourne à la fête, avec Sarah Lefebvre côté camping, cette fois parmi les tentes et les caravanes.
Bonjour. Vous êtes en train de faire cuire du poisson au barbecue?
Oui. Charles, pardon, faut parler.
Comme les jumeaux, là. C'est elle qui fait le poisson.
Charles, pardon, donne la loupe, Charles, va parler. On essaie de manger vraiment africain.
Oui, on veut se rappeler de bons plats du pays, donc c'est du poisson braisé qui est là, le poisson cap. En train de le braiser.
Ça s'appelle tilapia ici. Ah. Ça s'appelle ça tilapia.
De la Côte d'Ivoire.
Vous êtes ivoirienne?
Oui. Les trois familles. Je suis venue au Canada parce que j'étais venue avec une amie qui avait un parent à Edmonton. Donc on est allé là. J'ai fait mon bac là-bas. Puis j'ai eu mon premier emploi en Saskatchewan. C'est pourquoi on est venu en Saskatchewan.
Et pourquoi avoir choisi le Canada, Edmonton et ensuite la Saskatchewan?
Parce qu'il y avait la procédure d'immigration officielle. Je voulais immigrer, mais je ne voulais pas immigrer clandestinement. Parce qu'on avait quand même une situation... Oui, on avait une situation normale au pays. Puis tu veux immigrer, mais tu veux avoir une vie normale. Donc, c'est pourquoi j'ai fait la procédure. Ça fera 7 ans bientôt. J'ai fait 4 ans à Edmonton, puis maintenant, je suis en Saskatchewan depuis 4 ans.
Là, ça fait 8.
8, à peu près.
4 plus 4, ça fait 8.
Vous êtes venu d'où comme ça?
Nous vivons à Pontex, c'est un petit village, qui est à combien, 4 heures d'ici, je pense.
Ouais. Ah ouais, vous avez voyagé pour venir là?
Oui, on a voyagé. C'est notre première fois, mais on aime.
Pourquoi vous êtes venu ici au Festival de la fête francescoise?
Je suis quand même francophone, je peux dire, parce que j'enseigne le français dans une école francophone. Puis on a vu l'activité, on s'est dit, ben pourquoi pas, on va essayer, on va camper pour une première fois pour voir qu'est-ce que ça donne. Puis se retrouver en groupe, en parler français tout le temps, ça fait du bien aussi.
Alors bouge-toi.
Depuis 20 ans, l'économie de la Saskatchewan roule bien. Ça fait que les gens entendent parler de ça.
Roger Lepage est avocat et militant francescois.
Et puis, nous, comme francophones, donc on a développé un partenariat où l'Assemblée communautaire francescoise, notre gouvernement, notre association francophone, chaque année, on envoie une délégation dans différents pays pour faire du recrutement. Il y a des immigrants qui nous arrivent de l'Afrique francophone. On va dans ces pays-là pour faire de l'immigration, pour leur dire « Hey, venez vous installer chez nous ». On dit « Si on n'est pas capable de trouver des jeunes familles avec des enfants pour bâtir notre communauté, on est foutu ». Et puis, dans l'espace de 20 ans, on a réussi à en accueillir beaucoup. Si tu vas, par exemple, à Regina, à l'école francophone de Regina, je dirais qu'il y a à peu près un tiers de notre population est maintenant de l'Afrique francophone. Saskatoon, c'est à peu près la même chose aussi.
Roger Lepage, quelles communautés africaines viennent aujourd'hui en Saskatchewan?
Oh, il y en a beaucoup. Comme à Regina, la plus grande communauté vient du Burundi, très grande communauté. La République du Congo démocratique aussi, un autre gros groupe. Côte d'Ivoire, il y a aussi quelques Rwandais, il y a des Sénégalais, il y a beaucoup de Marocains, des Algériens. C'est très intéressant. Ça ajoute une diversité. Moi, je regarde à la fête francescoise, on commence à voir des familles de l'Afrique francophone. Pour eux, c'est pas évident de faire du camping. Normalement, ils nous disent, écoute, en Afrique, OK, on n'est pas intéressé à faire du camping, là. Ça fait que nous, venir vivre dans une tente pour souffrir, là, non, c'est pas intéressant. Mais là, ça fait une vingtaine d'années qu'ils sont ici, là, ils commencent à faire du camping, tu sais.
Le Canada cherche à attirer des immigrants de partout au monde, mais là, on a ouvert, depuis les années 60, les critères ont changé. Alors là, on a de plus en plus d'immigrants de l'Afrique, de l'Asie, et donc ça produit aussi une dynamique et certaines tensions, parce que pour certains d'entre eux, la langue française, c'est une langue de colonisateur. Donc, ils parlent le français, mais pas nécessairement parce qu'ils veulent, c'est un peu malgré eux. Puis ils arrivent ici, puis là, on s'attend qu'ils vont s'identifier avec nos luttes de minoritaires, quand pour eux, la langue française, c'est une langue de domination. Alors, on a beaucoup à apprendre à comment gérer et comment traverser ces différences historiques.
Et comment on peut faire alors? J'imagine qu'entre Francescois, vous en parlez.
J'ai eu le plaisir, vers 2006, j'étais représentant sur l'association provinciale de l'Assemblée communautaire francescoise. Et à ce moment-là, on avait un problème, c'est qu'il y a énormément de mariages, ce qu'on appelle les mariages mixtes en Saskatchewan, c'est-à-dire linguistiquement. Alors, beaucoup marient des anglophones. Comment on peut ouvrir la porte aux anglophones, mais quand même protéger nos institutions et nos communautés? Et là, aujourd'hui, on a un peu de nouveaux défis. Et je pense que ce serait peut-être temps d'avoir une autre commission d'inclusion sur les questions de comment intégrer les nouveaux arrivants dans nos communautés.
Il y a du monde qui vient tout le temps, des nouveaux qui viennent de toutes sortes de pays ici au Canada. Comment est-ce qu'ils vont savoir l'histoire si nous ne connaissons pas cette histoire-là parmi nous autres qu'ils ont venu ici de 500 ans passés? Pourquoi je ne peux pas ouvrir un livre de mes chiffres? Quand tu ne te fais pas donner un choix, comment est-ce que tu vas vivre? Le choix est là aujourd'hui plus. C'est pour ça que c'est une partie de la célébration de la 150e anniversaire. Parce que là, on pense qu'on a un choix aujourd'hui. C'est ça la différence. C'est ça que ça me fait sourire, tu sais. Ça m'encourage. Ça me donne une bonne idée. On a quelque chose, là. T'sais? On a des partners, des associés, là. On va travailler ensemble, on a la même idée. On va travailler la réconciliation ensemble.
Réconciliation, mais aussi inclusion des autres cultures francophones sont les enjeux qui attendent la communauté francescoise. Aujourd'hui, la province de la Saskatchewan, pleine de pétrole et de céréales, affiche une belle santé économique, mais manque de bras. Avis donc aux francophones du monde entier, du continent africain et d'ailleurs, si les immensités américaines vous attirent. Si loin si proche a été concocté par Laura Larry, Sarah Lefebvre et Céline Develay-Mazurel, cet épisode s'inscrit dans une série en 3 épisodes à la conquête de l'Ouest canadien que vous pouvez retrouver en podcast. À la semaine prochaine pour de nouveaux voyages.